Bonjour, bienvenue sur Radio Mayuri Campus. J'accueille Mathieu Wing Hang. Vous êtes originaire de Hong Kong et vous avez grandi à Cayenne, à Montlucas plus précisément. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, monsieur, plaisir de m'accueillir aujourd'hui.
Alors, depuis quand avez-vous laissé la Guyane pour poursuivre vos études en France métropolitaine particulièrement?
J'ai vécu en Guyane depuis, enfin, l'âge de 3-4 ans jusqu'à le bac à 17 ans. Donc, je suis parti à 17 ans après mon bac d'abord à Bordeaux et je suis parti en 2005. Et depuis 2005, je rentre régulièrement, allez, bon, pas si régulièrement que ça, mais deux fois, enfin une fois tous les 2 ans. Mais ces dernières années, le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je pense très souvent à la Guyane depuis
Vous
2005.
avez de la famille en Guyane?
Ils vivent entre la Guyane et la France maintenant. Ils sont pas âgés, mais oui.
Alors revenons sur ces années passées en Guyane, les écoles que vous avez fréquentées, les établissements, est-ce que vous pouvez nous en parler?
D'accord. Donc, j'ai fait mon école primaire à Alexandrie Stanislas. Bon, je peux rentrer un peu dans les détails si ce que vous souhaitez. Quand je suis venu avec ma famille depuis Hong Kong en Guyane. Et à l'époque, je parlais pas le français. Du coup, mes premières années étaient très compliquées. Heureusement, j'étais plutôt bon en maths, donc j'étais bon en maths, mais je parlais pas du tout français. J'ai pu passer des classes comme ça avec une moyenne juste à peine pour passer. Et voilà. Et après, ça s'est bien passé. Finalement, j'ai appris la langue. Et ensuite, je suis parti à Justakatai, qui était près de Montlucar. Je me rappelais, j'allais à pied tous les jours 2 km aller depuis Montlucar 3 et 2 km retour à peu près. Et il
D'accord.
faisait très chaud. Et donc voilà, collège juste à Cataillé, ça s'est très bien passé. Bon, à mon époque, il y avait aussi beaucoup de manque de moyens. On avait pas mal de profs absents. Voilà. Et après, je suis parti au lycée. Je ne sais pas si dans quelle proportion vous voulez rentrer dans les détails. Et ben, n'hésitez pas à me poser votre question si vous en avez après. Et
Bien
après, je suis
sûr.
parti au lycée Félix Éboué. Scolarité plutôt normale. J'ai travaillé normalement, sauf pour le bac où j'ai vraiment travaillé à fond parce que j'avais vraiment besoin d'une bourse pour pouvoir partir faire mes études. Et voilà. Et à ce moment-là, je n'avais aucune idée de quel type d'études. En 2004-2005, à Félix Éboué en tout cas, pour ma part, j'avais très peu accès à l'information sur quelles sont les études supérieures. Du coup, je suis un peu parti par hasard. Je me suis inscrit par hasard dans une classe préparatoire à Bordeaux où je ne suis pas resté très longtemps. Du fait que je ne savais pas du tout ce que c'était. Je pense qu'entre-temps, ça a beaucoup évolué.
Oui, tout
Ouais,
à
voilà.
fait. Et c'est quel type de bac que vous avez passé?
Donc, j'ai passé le bac S, bac scientifique à l'époque, ça s'appelle. J'ai plutôt bien travaillé du coup et j'ai eu la mention très bien avec une, voire la meilleure note à vérifier, une, voire la meilleure note du bac à l'époque et ce qui m'a permis d'avoir une bourse de la Fondation Eurys, une fondation qui est rattachée à la Fondation de France et qui m'a permis de couvrir mes 2 premières années en France.
Quels sont les souvenirs que vous gardez de Montlucas?
Montlucas, c'est très personnel cette question dans le sens où c'est Montlucas qui m'a formé, dans le sens où cela fait depuis 2005 que je ne vis plus à temps plein. J'y retourne de temps en temps à Montlucas encore. Mais c'est vraiment Montlucas qui m'a formé, qui m'a donné tous ces gens que j'ai rencontrés, tous ces voisins du quartier, qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a motivé à entreprendre. Et voilà, je pense que c'est pas par hasard qu'aujourd'hui je suis dans l'entrepreneuriat avec le continent africain et avec des gens très très divers en termes de diversité. Je pense que c'est lié vraiment à ma jeunesse à Montlucas. Et surtout, j'ai des amis que je garde toujours en contact de mon Lucas.
Ouais, qu'est-ce qui vous a aidé à réussir à d'abord à obtenir votre baccalauréat, baccalauréat S, à quitter la Guyane et à intégrer de grandes écoles, ce qui n'est pas forcément la trajectoire de tous les Guyanais. Avec du recul, qu'est-ce que vous pourriez dire? Quels sont les éléments que vous pourriez énumérer qui vous auraient aidé à vous en sortir et à réussir dans vos études et plus tard, on le verra tout à l'heure, au niveau professionnel?
Je pense que c'est une très bonne question, Monsieur Plaisir, dans le sens où c'est une vraie réflexion que je me suis posée. Parce que au fur et à mesure de mes études, donc je commençais du coup par une licence de chimie à Bordeaux. Ensuite, j'ai intégré l'école d'ingénieur. Je suis devenu ingénieur chimie ParisTech, qui est la première école de chimie de France. Et entre la fac et l'école d'ingénieurs parisienne, le taux d'antillais guyanais a drastiquement chuté. On parle même pas. Et c'est la même chose pour les minorités afro ou les minorités asiatiques. Ensuite, soit passer par la. Ensuite, je fais un double diplôme avec HEC. Et là, c'est pareil. Je me suis posé la question. J'ai regardé dans l'annuaire des anciens de HEC pour voir qui sont les Guyanais qui ont fait un master et j'en ai pas trouvé à ma grande surprise. Il y a quelques Réunionnais, les Réunionnais sont pas mal, les Guadeloupéens il en y a un peu mais pas de Guyane. Et ensuite je viens de finir mon MBA à CIPS qui est la première business school d'Asie et je l'ai fait aussi ma deuxième année à INSEAD qui est la première business school du monde cette année, classement en MBA.
Donc,
Et
qui se
c'est
trouve
une
à
question.
Fontainebleau, oui.
C'est ça, qui se trouve à Fontainebleau et à Singapour. Donc, j'ai fait une période à Singapour et une période à Fontainebleau. Et je me suis posé la question. Je me suis posé la question, c'est quels sont les paramètres qui ont fait que j'ai pu intégrer ces écoles et quelles sont les difficultés que les jeunes Guyanais ont qui les empêchent d'arriver, par exemple, à ces milieux.
De franchir le plafond de verre.
Voilà, le plafond de verre. Et plusieurs raisons. Première raison, je pense que la Guyane, le niveau, c'est mon avis, hein, ça m'engage que moi. Le niveau de l'éducation en Guyane et l'accès de l'information est peut-être un peu inférieur par rapport aux autres départements. Dans le sens où je me rappelle, bon, je pars comme si je parle au passé parce que je suis sorti du collège et au lycée depuis un certain temps. Mais par exemple, à Justin-Cataillé, j'avais quand même pendant une année entière où j'avais pas prof de, je n'avais pas mon prof de physique chimie, ce qui est quand même
Ouais.
très grave.
Tout à fait.
Quand on parle en parallèle, vous avez des lycées parisiennes type Henri IV, Louis-le-Grand qui sont très prestigieuses et qui donnent des cours de maths au collège, mais en chinois. Donc eux, ils sont déjà à l'époque, à l'étape de je vous enseigne des cours de maths en chinois et qu'en Guyane, on se retrouve avec de manque de moyens. Donc pour moi, c'est quelque chose de très compliqué.
Donc
Ensuite, la
vous,
deuxième chose, c'est l'accès à l'information.
oui, et puis la rigueur, peut-être le manque de régularité, de sérieux, de constance également dans l'organisation des cours, en serait pour cause également.
Je pense que je suis quelqu'un qui est par rapport. Donc, votre question, c'est quels sont les points qui m'ont permis d'intégrer ces milieux contrairement à peut-être à d'autres personnes. Je pense que j'ai une rigueur de travail et une éthique de travail plus élevée que la moyenne. Je me rappelle Noël, Nouvel An, quand je passais ma licence à Bordeaux, j'étais enfermé dans 9 mètres carrés et j'étudiais parce que et je me rappelle mes amis me disaient ça serait bien quand même d'aller faire un peu la fête mais j'étais très rigoureux et très motivé. Donc ma motivation, ma détermination et ma rigueur de travail m'a permis d'aller au-delà de ces difficultés structurelles et aussi d'accès à l'information.
Quel rôle a joué votre famille dans ce cursus, finalement, dans ce cheminement? Et dans ce parcours.
Je dirais qu'ils ont joué un rôle similaire à d'autres familles de la Guyane, pas que des familles asiatiques, mais je pense que la clé quand même, c'est pas forcément familial, mais plus des rencontres clés durant mon parcours. C'est-à-dire qu'à la fac, j'ai eu la chance de tomber avec une bande d'amis africains extrêmement brillants et qui m'ont changé mon état d'esprit. Ils m'ont aidé à apprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus la méthode d'apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Il faut des fois avoir la chance de tomber avec des gens qui t'ouvrent les yeux sur comment apprendre, comment aller passer ce plateau de verre comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et je pense que c'est vraiment les rencontres clés. Et par exemple, j'ai rencontré HEC, mon associé, Ako, qui est belge congolais, et on travaille ensemble. Et c'est pareil, c'est une rencontre clé qui m'a permis de bosser sur d'autres startups en ce moment.
Alors justement, parlons-en de vos activités actuelles. Vous avez mentionné l'Afrique tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos activités actuelles et les relations que vous avez pu mettre en place avec le continent africain?
Justement, pendant ma dernière année à HEC, nous, avec mon associé, nous sommes partis d'un constat, c'est que il y a encore 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Et le problème, c'est que quand on n'a pas d'accès à l'électricité, pour moi, c'est toute une jeunesse qui est condamnée. Pas d'accès à l'électricité, c'est-à-dire que pas d'accès à la communication, pas d'accès à l'information. Et c'est quelque chose que je retrouve, bon, à un niveau beaucoup moins grave en Guyane, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas accès à l'information. Justement, on parlait de Montluçon, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de Montluçon qui peut réussir, mais ils n'ont pas forcément la bonne information et ils ne savent pas quoi faire. Et du coup, partant de son constat, on a travaillé vraiment très dur avec mon associé et on a réussi à développer un produit qui permet de fournir de l'électricité aux Africains sans qu'ils aient besoin de payer toute la totalité du produit. C'est-à-dire qu'on leur donne un produit qui un ensemble de produits, c'est-à-dire un panneau solaire, une batterie, de l'éclairage, de l'internet et un téléphone. Et les personnes, ils payent ce qu'ils veulent utiliser. Ils payent par exemple 1 $ et le produit se débloque et ça peut s'utiliser comme du crédit. Dès qu'ils finissent, ils peuvent recharger. Et du coup, tous ces gens-là qui n'ont pas les moyens à la base peuvent avoir accès au même niveau que les autres à l'électricité, à l'internet et à la télécommunication. Et nous sommes implantés en ce moment au Togo. Et on continue à grandir et expandre dans les pays de l'Afrique de l'Ouest.
Vous êtes installé à Shanghai. Pourquoi le choix de ce pays? Puisque vous travaillez avec l'Afrique.
Très bien. Parce que on arrive dans un monde où tout est devenu global. Tout est lié. En ce moment, la Chine est très forte dans la fabrication des produits, la technologie de l'énergie solaire, ils sont numéro un. La fabrication des téléphones, et notamment on parle justement de la 5G, c'est aussi le numéro un. Et en étant là, je peux être tout près de tout cet industriel qui peut développer des produits en temps réel pour l'Afrique. Donc ça, c'est moi la première raison, je suis installé là. La deuxième raison, c'est moi, je suis un passionné des pays émergents et la Chine a fait un travail formidable de sortir des millions de personnes de la pauvreté grâce à la production industrielle. Et le prochain continent qui va connaître ce boom d'industrialisation, ce sera l'Afrique, car en ce moment, l'Afrique a un taux d'industrialisation qui est inférieur à 10% par rapport à son PIB. Et ça va venir. Et être là permet de savoir les bonnes pratiques, les choses à faire qu'on pourra dupliquer et faire du plus tard, à l'avenir, du made in Africa. Donc, fabrication en Afrique.
Est-ce que en Guyane, vous avez repéré certaines opportunités qui pourraient vous amener à travailler avec le territoire?
Je pense que la Guyane a vraiment un très fort potentiel dans le sens où
Non, mais la
il y a beaucoup de
population est
ressources.
faible et le
C'est
nombre
ça.
de consommateurs proportionnellement.
Le marché est faible. C'est ça la difficulté de la Guyane. Le marché est faible. La taille du marché est faible. La proportion voilà, de comme vous avez dit, le nombre de personnes est faible. Du coup, c'est pas forcément un marché immense. Mais par contre, il y a toute une ressource à développer. Et pour ces ressources, n'attend qu'à être développée. Et pour cela, on a besoin d'autres personnes, de la main d'œuvre, de l'investissement global. Et ça va venir. Ça doit commencer par attirer du talent et à former toute une génération de talents. Et c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau, c'est-à-dire je coach et je fais du mentoring à certains jeunes Guyanais quand le temps me le permet. Bon, je le fais par Zoom, mais je le fais de temps en temps.
Alors, le quartier Montlucas est gangréné par la violence, il circule des armes à feu. Ce sera ma dernière question. Quel est votre message à ces jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent certainement à la radio?
Quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, comment c'est Montlucas? Montlucas, déjà, à mon époque, c'était, il y avait aussi de la violence. Et moi, je veux dire que par rapport peut-être à mon exemple, c'est que il y a beaucoup d'opportunités dans la vie. Et il faut se donner les moyens de trouver ce qu'on aimerait faire et se donner aussi les moyens de réaliser un peu ses rêves. Et pas être là à attendre que quelque chose se passe du système ou autre chose, mais il faut être entrepreneur de un peu de sa propre vie. Et voilà, donc les jeunes de Montlucas, j'espère qu'ils s'ouvrent un peu l'esprit, ils cherchent, ils regardent. Maintenant qu'avec Internet, on a l'information partout, on peut être en temps réel avec tous les personnes du monde, on peut se former sur Internet et le monde est grand et il y a beaucoup d'opportunités.
Parfait, merci beaucoup Monsieur Mathieu Wing Hang d'avoir été notre invité, et puis bien évidemment on vous souhaite une bonne continuation à Shanghai, et puis espérons vous revoir lors d'une conférence ou de rencontres autour de la chimie, des relations internationales, de l'économie, du business à Cayenne. À bientôt.
Merci beaucoup, monsieur, plaisir. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.